un podcast France Culture.
Au XVIIe siècle, il y avait des poètes, des manufacturiers, des chefs de guerre et même des penseurs de l'économie. Et puis, il y avait ceux qui étaient un peu tout cela à la fois. C'est le cas d'Antoine de Montchrétien, premier écrivain à utiliser l'expression « économie politique » dans le titre de son essai. La science économique n'existe pas encore, mais une doctrine économique se développe, le mercantilisme. Pour ses partisans, l'État doit intervenir dans l'économie pour favoriser le commerce et la puissance du royaume. Parmi eux, Montchrétien, dont les idées seront reprise à la fin du siècle par un certain Jean-Baptiste Colbert. Pour découvrir la pensée de cet aventurier de l'économie qu'était Antoine de Montchrétien, nous avons invité Arnaud Aurin, historien, économiste, directeur d'études à l'EHESS, auteur de cet article « La vraie nature du mercantilisme contemporain » paru dans la revue Esprit en 2019. Également avec nous Anne Conchon, professeure d'histoire économique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chercheuse au laboratoire IDES et co-autrice d'un article au sein de l'ouvrage collectif dirigé par Alain Guéry, « Montchrétien et Cantillon, le commerce et l'émergence d'une pensée économique » publiée aux éditions de l'ENS. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancet, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévin et Inès Gender. Bonjour Anne Conchon et Arnaud Aurin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Commençons par un hommage à Philippe Minard, grand historien de l'économie, qui nous a quittés brusquement hier à l'âge de 62 ans. En 2018, il était venu nous parler de la physiocratie, un courant de pensée économique apparu au XVIIIe siècle. On l'écoute.
Toute la scientificité supposée de la physiocratie vient de là, de ce postulat que l'économie, c'est comme une physique finalement, que tous les phénomènes économiques sont gouvernés par des lois qui sont analogues aux lois physiques. Ces lois sont universelles, qu'est-ce que soient les temps ou les latitudes où on se trouve, l'économie répond à des lois universelles. Pourquoi sont-elles universelles? Parce qu'elles sont fondées sur les besoins physiques de l'homme et donc sont antérieures aux conventions sociales. C'est le postulat fondamental de la philosophie naturaliste et de la question de l'ordre naturel chez Quesnay. La société, pour lui, ne résulte pas d'un contrat, elle résulte de l'existence d'un ordre naturel qu'il assimile à une nécessité physique. Et donc c'est extérieur aux individus et c'est pourquoi ça s'impose à eux. Donc ce que doit faire l'économiste, je mets des guillemets à cela, celui qui l'observateur a visé, c'est décrypter les lois de l'économie, les rendre visibles aux hommes pour qu'ils puissent s'y conformer le mieux possible et de là viendra leur salut.
Voilà Philippe Minard, directeur d'études à l'EHESS et professeur à l'Université Paris 8 sur France Culture le 19 février 2018. Il était un grand spécialiste de l'histoire économique et sociale du XVIIIe siècle, Anne Conchon.
Oui, je voudrais rendre hommage d'abord à un ami, ensuite à un collègue et voilà, je partage ma peine avec tous les collègues du laboratoire auquel il appartenait, l'IDHES. Et puis c'était un historien extrêmement exigeant et effectivement qui avait travaillé sur Colbert, le colbertisme, la question qui nous occupe, qui va nous occuper sur le mercantilisme, et puis un très fin connaisseur des mondes du travail. Et voilà, on est beaucoup à le pleurer. J'ai une pensée toute particulière pour sa famille, bien évidemment, mais aussi pour ses étudiants et ses doctorants également.
Arnaud Aurin.
Oui, c'est une grande perte pour l'histoire économique. On pense évidemment à tout ce qu'il a fait pour la revue d'histoire moderne et contemporaine, hein, dont il a été le pilier. Depuis des années, et puis bien sûr à son rôle de passeur aussi entre Amérique, France, Angleterre, France. Il a longtemps été invité à Cornell University par quelqu'un qui a été son père spirituel, un autre de ses pères spirituels avec Daniel Roche. Je pense à Stephen Kaplan, bien sûr. Philippe a dans les pas de Steve été l'un des grand passeur de l'histoire économique anglo-saxonne en France. Et pour cela aussi, c'est une grande perte pour la recherche française.
Et son intelligence et son érudition nous manqueront beaucoup sur France Culture, hein, où il était régulièrement invité, notamment dans notre émission. Effectivement, il a participé à faire connaître l'histoire économique du XVIIIe siècle. Je parlais de la physiocratie, vous évoquiez avant cela le mercantilisme, Anne Conchon. Justement, je le disais dans mon introduction, Antoine de Montchrétien, qui va nous intéresser aujourd'hui, est l'un des partisans, l'un des penseurs du mercantilisme. Comment est-ce qu'on peut définir ce courant de pensée?
Alors le mercantilisme est présenté traditionnellement au singulier et en fait il n'y a pas de mercantilisme. Le mercantilisme sert à désigner trois choses en même temps d'une certaine façon. Ça sert à désigner une période, en gros le 16e et le 17e siècle. Ça sert à désigner un ensemble d'écrits en fait qui sont extrêmement disparates. Et il y a effectivement des écrits qui sont des écrits politiques, mais le terme de mercantilisme est un terme qui est plaqué a posteriori et qui est une critique libérale sur un certain nombre de propositions de ces auteurs qui viennent de milieux extrêmement différents. On y reviendra peut-être. Et puis le dernier élément, c'est que ça désigne ce dont précisément Philippe était spécialiste, c'est-à-dire des politiques économiques, à commencer effectivement par la politique colbertiste.
Oui, ça c'est important de le dire. Arnaud Aurin, vous me le disiez avant qu'on commence cette émission, Antoine de Montchrétien, c'est pas un précurseur de l'économie politique, mais de la politique économique.
Oui, et ça ramène exactement à ce que disait Philippe dans cet extrait de l'émission lorsqu'il évoquait la physiocratie, c'est-à-dire que l'économie politique, la science de l'économie politique, elle naît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, puisque cette science, elle est basée sur une notion de loi naturelle et sur l'émergence de principes abstraits. Et ce n'est pas ce que fait Montchrétien. Montchrétien, il va définir des principes de politique économique. Il a une pensée selon laquelle l'économie, en fait, ce n'est pas une science, c'est un art. C'est un art qui est pratiqué par le bon prince, celui qui a la volonté d'enrichir son royaume. Et cette volonté d'enrichir son royaume, elle passe par un certain nombre de bonnes ordonnances royales.
Et pour élaborer sa pensée, il va s'inspirer des mercantilistes anglais, Arnaud Aurin, et cela après avoir été exilé justement en Angleterre au lendemain d'un duel au cours duquel il tue le fils du sieur de Grichy Moine.
Oui, alors on a une longue tradition d'économistes qui tuent des gens en duel et qui doivent s'exiler. On peut penser quelques dizaines d'années plus tard à John Law, hein, qu'il arrivera la même chose, il devra s'exiler sur le continent. Alors effectivement, en 1602, Antoine de Montchrétien, qui est fils d'un apothicaire, qui est d'abord un tragédien, c'est pour ça qu'il est connu, il a écrit 6 tragédies qui ont été publiées, représentées, qui ont connu un certain succès. Il va devoir s'exiler en Angleterre, malgré les suppliques qu'il a adressées à Henri IV, qui va refuser sa grâce. Et là, il va découvrir tout un peuple de Français réfugiés. Il va voyager à Londres, il va travailler dans des fabriques, et vraisemblablement, il va étudier le commerce. Et on est dans une période où on a un bouillonnement intellectuel d'un certain nombre de penseurs anglais. Je pense en particulier à Thomas Mann, à John Wheeler, à Thomas Misselden, des gens qui vont, alors soit qui sont très proches de l'East India Company, la compagnie des Indes orientales britanniques qui est créée en 1600, ou des gens qui sont très proches de ce qu'on appelle les Merchants Adventurers, les aventuriers marchands, c'est-à-dire un groupe de marchands alliés là aussi, hein, comme une sorte de compagnie à monopole qui fait du commerce d'importation et d'exportation, en particulier avec les villes du Nord. Donc tous ces penseurs, effectivement, ils vont poser les grandes bases de ce que va être le mercantilisme à l'anglaise, en tout cas, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on a un royaume qui est bien pourvu en production naturelle, c'est l'Angleterre, et Montchrétien va reprendre la même idée pour la France, mais c'est pas avec ce qui se passe à l'intérieur d'un royaume qu'un royaume s'enrichit. Pour s'enrichir, il faut exporter. Donc il faut plutôt, si on en croit Thomas Mann, John Wheeler ou Thomas Misselden, plutôt vivre en autarcie et moins consommer à l'intérieur du royaume et tenter d'exporter le plus, baisser les droits de douane sur un certain nombre de matières premières et pour pouvoir les manufacturer et évidemment augmenter les droits de douane sur les produits finis importés.
Donc c'est l'idée que c'est la production et plus encore le commerce qui font la richesse des nations, Anne Conchon ?
Alors, juste pour prolonger ce que disait Arnaud à l'instant, il y a indéniablement une influence d'auteurs anglais qui viennent plutôt des milieux marchands. Mais Antoine de Montchrétien, en fait, appartient à un groupe beaucoup plus nébuleux de conseillers politiques qu'on trouve dans toute l'Europe au même moment. Dans la péninsule italienne, en Espagne, je pense à Antonio Serra pour Naples, je pense à tous ceux qu'on qualifie d'auteurs arbitristes pour l'Espagne, qui en fait font un constat de toute une série de difficultés qui sont des difficultés à la fois démographiques, économiques, sociales, et qui multiplient des projets de réforme pour contrer ce qu'ils appellent la déclination, c'est-à-dire effectivement un déclin de l'Espagne. Et qui inonde le conseil de mémoire, de lettres ouvertes. Effectivement, Antoine de Montchrétien partage avec tous ces auteurs qui dépassent très largement la sphère britannique ce projet, effectivement, de redresser le royaume de France. Et un des leviers, c'est effectivement un accent qui est mis sur la production, alors agricole, manufacturière incontestablement. Et une de ses métaphores, mais il n'est pas le seul à l'utiliser, c'est qu'effectivement, la France n'a pas de Pérou, sous-entendu les mines du Potosi, mais ces Pérou, c'est effectivement ses secteurs productifs.
Justement, comment se situe l'économie française en ce début du XVIIe siècle? On peut dire qu'elle va moins bien que l'économie anglaise, mais mieux que l'économie espagnole, Anne Conchon?
Alors, c'est un contexte qui est un contexte politique et économique à envisager. C'est-à-dire que le traité d'économie politique de Montchrétien, d'abord, il faut revenir sur la composition de l'œuvre. Il y a trois chapitres qui sont écrits en 1614. Et puis, la dernière partie, qui est une adresse au roi, qui est rédigée en 1615, à la fin des États généraux, au moment où le roi est majeur, c'est-à-dire à plus de 13 ans. Et quand Montchrétien écrit... il écrit dans un contexte qui est un contexte politique assez fort, c'est-à-dire effectivement la réunion des États généraux d'octobre 1614 à février 1615. C'est une période de régence, donc traditionnellement une période d'affaiblissement politique, c'est la régence de Marie de Médicis. Et donc il s'adresse et à la régente et au roi pour un programme de politique économique en général et de redressement du royaume. Alors c'est un contexte qui est un contexte économique, pour répondre plus précisément à votre question, qui est ambivalent. C'est-à-dire, en gros, la politique économique d'Henri IV a été mise entre parenthèses au moment de la régence. D'ailleurs, Montchrétien rend hommage plusieurs fois au roi Henri IV. C'est vraiment pour lui le roi, pour le citer, d'immortelle mémoire. Enfin, c'est vraiment.
Pourquoi ? Parce que notamment, il a développé l'extraction minière.
Alors, il a développé l'extraction minière, effectivement, par grand renfort de privilèges. C'est lui qui orchestre très largement une politique de redressement des manufactures, notamment sous l'égide de Barthélemy de la FEMA et de la commission qui a en charge effectivement et le redressement des manufactures, mais du commerce en général, c'est-à-dire de l'économie. Et puis, voilà, c'est un moment où effectivement il y a une remise en cause de toute une série d'impulsions qui ont été données par Henri IV. C'est le moment où est limogé le grand ministre d'Henri IV, puisque Sully est limogé en 1611. La surintendance qu'il occupait est supprimée dans la foulée. Et en même temps, c'est le moment où il y a une ouverture maritime pour rivaliser avec, justement, l'Angleterre et les Hollandais.
Donc la France, effectivement, entre dans une période troublée, ce qui entraîne un bouleversement de son économie à cause, vous l'avez dit, de cette période intermédiaire, en tout cas de transition politique, à cause des guerres de religion et à cause de l'instabilité monétaire, Arnaud Rhin.
Oui, on a un contexte structurel, en fait. Au-delà de la question conjoncturelle qu'a rappelé Anne, le problème structurel, c'est que la France, elle sort de plusieurs décennies de guerre civile. Ces guerres civiles, elles ont finalement, si on peut reprendre un peu ce que nous dit Montchrétien, mis la France en retard. Alors, en retard sur un certain nombre de plans, la navigation, en particulier. La colonisation, bien sûr, chose sur laquelle il revient beaucoup, en particulier à la suite de Jean Bodin. L'émigration également, l'émigration en Angleterre, mais également ailleurs. Donc on a un problème structurel d'une France qui n'aurait pas suffisamment pris le tournant maritimo-colonial commercial.
Et c'est dans ce contexte, en 1615, que Antoine de Montchrétien publie donc son traité de l'économie politique. Il a alors 40 ans. Je vous propose d'en écouter un extrait. Aussi, les princes plus grands, plus libéraux et plus magnifiques ont toujours fait gloire d'inventer des moyens, ont toujours tâché d'imaginer et de dresser des règlements par lesquels ils puissent accommoder et enrichir leurs sujets, sachant bien que telle richesse est la vraie et inépuisable source de leurs dépenses et libéralité. Comme c'est le plus grand art des princes que de savoir faire profiter les peuples, rien aussi ne leur apporte plus d'obéissance, plus de révérence, plus de bénédiction. Le commerce est vivement du droit des gens, mais il est absolument au pouvoir du prince de le restreindre à quoi il veut, de le limiter comme il lui plaît, de le charger ou décharger d'impositions selon qu'il lui vient à gré, principalement pour le regard des étrangers. Car au reste, il doit toujours épargner les sujets et les réserver pour ses extrêmes nécessités. Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Nous continuons à explorer, à examiner la pensée économique d'Antoine de Montchrétien, précurseur de l'économie politique ou de la politique économique au XVIIe siècle. Le livre de Montchrétien se présente comme une adresse au souverain. Il propose au roi des conseils pour accroître la puissance du royaume. Anne Conchamp.
Oui, oui, tout à fait. Le traité, puisque c'est comme ça effectivement que s'intitule l'ouvrage de Montchrétien, c'est d'une certaine façon, enfin il est d'une certaine façon à resituer dans toute une littérature qui fleurit à ce moment-là, qui est ce qu'on appelle l'institution du prince ou les institutions du prince, c'est-à-dire l'idée effectivement que on doit sensibiliser, éduquer le bon prince qui est à même de bien piloter. C'est une grande métaphore qu'on trouve dans l'ouvrage de Montchrétien, donc de bien gouverner les intérêts de son royaume, avec justement un effet miroir dans le traité de Montchrétien qui est en miroir tout les traits du mauvais prince. Et donc en cela, effectivement, le traité d'économie politique, c'est d'une certaine façon un traité, je dirais, politique traditionnel, avec la monarchie droit divin, la religion comme principal support de l'État. Et pour prendre vraiment l'œuvre de Montchrétien dans son ensemble, on a déjà des marqueurs dans ses œuvres littéraires, dans les tragédies et dans la Bergerie qu'il rédige au tout début du XVIIe siècle. On a effectivement un discours qui est à la fois un discours très moral, mais qui contient déjà des annotations politiques autour de la figure du bon prince. Et le bon prince, donc le jeune souverain, c'est quelqu'un qui doit être constant, c'est quelqu'un qui doit être clément, c'est quelqu'un qui doit avoir une bonne connaissance de son royaume. Et c'est une des raisons pour lesquelles le traité d'économie politique de Montchrétien fourmille d'informations qui sont non seulement des recommandations politique, mais qui sont aussi des informations sur l'état, l'activité économique de son royaume.
Et donc pour Montchrétien, le roi est semblable à un père de famille qui doit ainsi s'occuper de son royaume, et le commerce, c'est le moyen privilégié pour assurer la puissance de l'état, et c'est aussi ce qui permet de garantir la stabilité du corps social pour Montchrétien Arnaud Aurin.
Oui, en effet, on va avoir un éloge très clair au début du traité du populaire. Du populaire, donc finalement du tiers-état, c'est-à-dire de ces laboureurs, de ces artisans, de ces marchands qui sont finalement la base des richesses du royaume. Et la France est vue comme un pays de cocagne, hein, ses blés, ses vins, ses sels, ses toiles, ses laines, son fer, ses huiles. Tout y vient bien, nous dit Montchrétien. Mais il y a un problème. Les hommes, ils sont mal employés. Donc, il faut rétablir les manufactures, rétablir le commerce, rétablir la marine et coloniser la Nouvelle-France.
Et en l'occurrence, il prêche pour sa paroisse, Anne Conchon, puisqu'il est lui-même devenu manufacturier. Peut-être que vous pouvez nous rappeler dans quel contexte il se lance ainsi dans la quincaillerie.
Alors oui, on sait très peu de choses effectivement de l'activité économique proprement dite d'Antoine de Montchrétien, mais on sait effectivement que en 1611-1612, il va installer une fabrique de métallurgie, sans doute une aciérie, à Ouzonne-sur-Loire, et puis il va la déplacer à Châtillon-sur-Loire. Mais on a très très peu d'informations effectivement sur le management entre guillemets de cet établissement.
On sait juste qu'il fait tout cela grâce à l'argent de sa femme, Arnaud.
C'est très probable. C'est très probable. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y revient plusieurs fois aux manufactures d'acier, à la coutellerie. Et il prend plusieurs fois l'exemple des couteaux et des faux, puisque les arts du feu ou les arts du fer sont pour lui un des éléments majeurs du royaume de France. Alors, c'est ce que disait Anne à l'instant, il fait des enquêtes, Montchrétien. Il nous donne des chiffres sur le nombre de personnes employées dans tel ou tel secteur d'activité. Et il nous dit que dans les arts du feu et du fer, il y aurait environ 500 000 personnes d'employées dans le royaume de France. Mais le problème, et là il parle vraisemblablement en connaissance de cause, ce sont les importations venues des pays de langue allemande et de Lorraine en particulier. Et il prend l'exemple des faux que vraisemblablement il fabriquait dans sa propre manufacture. Où il nous explique qu'il y a beaucoup de faux qui arrivent de Lorraine et d'Allemagne, qu'elles sont à meilleur marché que les faux françaises, mais qu'elles sont aussi de moins bonne qualité, naturellement, que les faux françaises, et qu'il n'y a pas suffisamment de producteurs en France. Et donc, il faudrait empêcher l'entrée de ce type de produits dans le Royaume de France et établir des ateliers dans chacune des provinces. Donc établir des manufactures, vraisemblablement, avec l'aide de la puissance publique. Et là, finalement, ça nous dit tout de ce que veut faire Montchrétien pour le royaume.
On va revenir sur les mesures protectionnistes proposées par Antoine de Montchrétien, mais vous l'avez dit, le traité de celui-ci se divise en trois parties, hein, manufacture, commerce et navigation. C'est vraiment en observant la pratique du commerce à la fois en Angleterre, mais aussi en Italie et en Hollande, qu'il va ainsi défendre cette figure du commerçant, Anne Conchon.
Alors, je suis pas sûre que ce soit en observant, parce que, enfin, quand on étudie un peu finement le traité d'économie politique, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup d'emprunts à toute une littérature de l'époque. Et parmi, effectivement, les topoi, il y a effectivement cette attention aux catégories productives. Donc, il rappelle effectivement le fonctionnement hiérarchique, donc le modèle hiérarchique de la société d'Ancien Régime. Donc les trois principaux membres sont, selon lui, sont l'ecclésiastique, le noble et le populaire. Mais effectivement, il va mettre l'accent sur les trois sortes d'hommes qui constituent pour lui vraiment les leviers de la richesse, donc les laboureurs, l'agriculture est le premier secteur d'activité, le premier secteur d'emploi, les artisans et les marchands, et il conclut tout état est nourri, soutenu ou entretenu. Donc il y a effectivement une observation aussi qui est celle qu'il a dans le royaume et qu'il partage avec un grand nombre de ses contemporains. Avec l'idée aussi d'employer et de rendre utile toute une population pauvre, d'assister. Et donc, c'est rendre à la production, à l'instar de bien d'autres auteurs qui lui sont contemporains. J'ai évoqué tout à l'heure Barthélemy de La Féma, mais il y aurait également Jean Éon, qui font une apologie de l'utilité publique, et donc qui, a contrario, préconise le renfermement des oisifs, la mise en apprentissage obligatoire et la mise au travail forcé des paresseux. Et effectivement, on a déjà cette critique de l'oisiveté et des parasites, en gros, dans la tragédie Hector, donc la dernière tragédie qu'il compose. Et il propose effectivement de les employer dans des établissements productifs. Alors, le premier, c'est la draperie, qu'on peut travailler de 4 ans à 80 ans, ou à peu près.
Oui, l'oisiveté, c'est vraiment la bête noire d'Antoine de Montchrétien, Arnaud.
Oui, c'est... Disons que il vante les mérites du dénombrement. Hein. Il vante les mérites du dénombrement, Montchrétien. Un grand État, je cite, doit se connaître lui-même, nous dit Montchrétien. Donc, il faut qu'il fasse de la censure, au sens ancien du terme, hein, c'est-à-dire évaluer les fortunes et évaluer les populations. Alors là, il prend des exemples de la Rome antique, de la Bible, de Jean Bodin, encore une fois. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut dénombrer ? Il faut dénombrer, évidemment, pour pouvoir asseoir les impôts, non, le sens, pour que ces impôts soient proportionnels. Anne évoquait les laboureurs, qui sont, selon Montchrétien, évidemment trop chargés d'impôts, bien entendu. Et il s'agit également, et là on revient à la question de l'oisiveté, c'est-à-dire qui est mère de tous les vices dans le traité, il faut dénombrer qui sont les mauvais pauvres. Qui sont les mauvais pauvres? Qui sont ceux qui refusent de travailler et qu'il va falloir enfermer dans des manufactures, nous dit-il, à la manière des Hollandais, en permanence, voilà. Il parle du fouet et du carcan, hein, pour ceux qui ne veulent pas travailler. Qui sont les vrais et qui sont les vrais pauvres et qui sont les mauvais pauvres? Donc, compter, c'est savoir qui sont les oisifs et qui sont les travailleurs. Et estimer, évidemment, le rapport entre production et consommation. Combien est-ce qu'il y a de foyers en France? C'est savoir, en cas de disette, ce qu'il faudra mettre en œuvre. Savoir, en cas de mauvaise récolte, ce qu'il ne faudra pas faire. Mauvaise récolte de grains, évidemment. Hein. Et c'est aussi connaître la distribution de la population en métier. Qui fait quoi à l'intérieur du royaume? Et ça, c'est quelque chose, j'ai cité les 500 000 personnes qu'il estime travailler aux arts du fer et aux arts du feu. Il nous fait plusieurs évaluations comme ça. Et pour lui, c'est vraisemblablement quelque chose d'extrêmement important, puisque la question est qui occupe de légitimes occupations et comment est-ce qu'on pourrait mieux occuper la main-d'œuvre.
Jean Bodin, que vous avez cité, et qui est l'auteur de cette maxime, il n'est de richesse que d'homme, maxime à laquelle on avait consacré une émission d'Entendez-vous l'écho. Alors, on a parlé des œuvres littéraires de Montchrétien qui ont été mis en musique au XVIIe siècle par le compositeur Michel Delaguerre. C'est la naissance de la pastorale.
Cette main du monde, c'est...
Le cœur de Bacchus, extrait du premier opéra de Lully, une pastorale intitulée Les fêtes de l'amour et de Bacchus. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Mon chrétien, fidèle du mercantilisme, c'est notre sujet. Aujourd'hui, les historiens Anne Conchon et Arnaud Aurin sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Olivier Arnay. Alors, on a bien compris que ce traité de l'économie politique d'Antoine de Montchrétien, publié en 1615, vise à donner un certain nombre de conseils aux souverain et il estime, mon chrétien, que pour que le commerce soit florissant, le commerce qui est au cœur de la création de richesses, selon lui, pour que celui-ci soit florissant, il faut à la fois de la concurrence et il faut aussi l'amour du profit, la quête du profit, Arnaud Aurin.
Oui, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il est tout à fait conscient du fait que les hommes sont mus par l'intérêt et l'intérêt pécunier. Ça, c'est quelque chose qu'il ne remet pas en cause. Il fait l'apologie de la vertu, mais il est très conscient qu'effectivement, si on veut guider les hommes, il faut les guider par leur intérêt. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'économie politique du XVIIIe siècle. Mais, c'était la première citation que vous avez donnée, évidemment, le prince a tout pouvoir pour modifier dans le sens qu'il souhaite donner à son royaume, cet intérêt individuel.
Le prince a tout pouvoir et mon chrétien compte bien s'en servir en lui adressant un certain nombre de préconisations. Il appelle notamment le roi à se méfier des commerçants étrangers qui, selon lui, menacent la richesse nationale. Écoutez. On dit que l'un ne perd jamais que l'autre n'y gagne. Cela est vrai et se connaît mieux en matière de trafic qu'en toute autre chose. Je dirais pourtant qu'en celui qui se fait de citoyen à citoyen, il n'y va de nulle perte pour le public. C'est à son regard comme si l'on tenait deux vases en ses deux mains et que l'on versa de la liqueur de l'un en l'autre. Il n'en est pas ainsi des marchands et facteurs étrangers. Tout autant qu'il y en a parmi nous sont des pompes qui tirent et jettent hors du royaume non l'égout ou la sentine du vaisseau, si l'on ne veut appeler ainsi les richesses, mais la pure substance de vos peuples. Ce sont des sangsues qui s'attachent à ce grand corps, tirent son meilleur sang et s'engorgent, puis quittent la peau et se déprennent. Ce sont des poux affamés qui en sucent le suc et s'en nourrissent jusqu'à en crever, mais qui le quitteraient s'il était mort. Affamés, des sangsues qui se nourrissent de ce corps jusqu'à en crever. Comment expliquer une telle violence à l'égard des étrangers, des commerçants étrangers, Anne Conchon?
Alors, la citation que vous venez donner est très intéressante. Il faut revenir d'abord sur le contexte dans lequel écrit Antoine de Montchrétien, qui dans son traité attribue une grande partie des malheurs de la France. Alors, effectivement, aux pertes liées aux guerres de religion, mais aussi très largement aux étrangers, donc à la concurrence hollandaise, anglaise et espagnole. Et il ne faut pas oublier effectivement que parmi les favoris de Marie de Médicis, il y a deux figures noires détestées. D'abord Concini, qui vient d'être nommé maréchal de France, et puis son épouse, qui est une femme de chambre, Eleonora Galigai. Donc il y a effectivement un contexte avec ces favoris étrangers, justement, qui font partie de ces... Voilà, de ces parasites, de ces frelons, pour reprendre aussi un terme qu'emploie très souvent mon chrétien. Et il y a une double lecture sur les étrangers. Il y a toute une série effectivement de réflexions. Ambivalent. Donc, effectivement, il y a la critique de concurrence déloyale dans une réflexion qui distingue deux circuits économiques. Hein. La citation revenait sur cette distinction, c'est-à-dire un commerce intérieur qui est le lieu de la réciprocité et puis un commerce extérieur qui, lui, pour le coup, doit être régi par l'accumulation du profit. Donc ce sont deux circuits qui sont complémentaires, du dedans et du dehors, hein, pour reprendre la citation. Et donc on a effectivement un royaume qui doit être autarcique pour garantir son autosuffisance, mais qui doit être capable d'exporter le superflu et justement de disputer une hégémonie commerciale avec d'autres États européens. Mais je dirais c'est ambivalent parce que on a beaucoup parlé de l'Angleterre, mais il y a des pages très violente de Mon Chrétien à l'encontre de l'Espagne, dans un contexte effectivement de tensions diplomatiques assez fortes avec l'Espagne. La paix entre la France et l'Espagne a été signée à peine 10 ans avant, hein, en 1604. Et on sent une forme de rancœur à l'égard de l'Espagne qui attire de la main-d'œuvre française, donc qui contribue effectivement au dépeuplement du royaume de France. Et il y a des passages absolument magnifiques où il dénonce effectivement la politique inconséquente de la monarchie ibérique qui a chassé les Morisques en 1609 et qui s'est privée d'une grande partie de ses travailleurs, qui est un peuple paresseux. Mais en même temps, c'est quand même un avantage pour la France parce que ça permet des retours en numéraire dans le royaume de France.
Mais donc, pour Mon Chrétien, la liberté du commerce est trop grande en France. C'est vraiment un défenseur du nationalisme économique, Arnaud Rein ?
Il y a une dimension xénophobe qui saute aux yeux lorsqu'on lit le traité, qui est assez stupéfiante quand on le
il
lit aujourd'hui.
Il prend pas de pincettes, ouais.
Non, il prend pas de pincettes quand on le lit aujourd'hui. Donc, il y a cette idée, effectivement, d'importation venue de l'étranger qui envahissent vraiment le royaume de France et qui font une concurrence déloyale à la production française. Mais il y a aussi la dimension de la présence de négociants étrangers à l'intérieur du royaume de France. Dans les villes de foire, des gens qui vont faire du commerce de cabotage. Et là, ils pointent très clairement les Hollandais, qui sont très souvent mis en accusation, puisque, c'est la citation que vous avez donnée, non seulement ils vendent dans ce circuit dont parlait Anne, qui est le circuit avec lequel la France devrait s'enrichir, ce circuit du commerce extérieur. Ils vendent des produits français à l'étranger, mais ensuite, ils emportent cet argent à l'étranger. Et donc, tout le problème est là. C'est-à-dire que ces commerçants qui ne sont pas des rénicoles, donc qui ne sont pas des Français, ils vont à la fois emporter les marchandises produites en France et emporter finalement l'argent qu'ils ont gagné avec les marchandises produites en France.
Alors que cet argent est nécessaire, dit Mon Chrétien, pour justement financer les opérations industrielles et commerciales. Il faut pouvoir investir.
Il faut pouvoir investir, il faut avoir de l'argent de côté, il faut pouvoir investir pour monter ces fameuses manufactures dont on a parlé, et il faut également avoir de l'argent pour pouvoir payer de manière très régulière. Ça, Mon Chrétien nous dit qu'il est très important que le prince soit un bon payeur. Et puis, il y a cette fameuse dimension marine et coloniale. Il faut que le prince puisse avoir une marine de guerre, ce qu'il n'a pas.
Alors,
à l'époque où il écrit.
Il y a la dénonciation et puis il y a les préconisations. Quelles sont les mesures protectionnistes qu'il propose, Anne Canchon ?
Alors, juste pour prolonger ce que disait Arnaud à l'instant, le besoin d'argent, effectivement, c'est un levier de développement de l'économie régnicole, mais c'est aussi un élément de puissance militaire. C'est-à-dire que il y a effectivement cette idée que partagent tous ces auteurs et voilà un peu réduit sous l'étiquette de mercantiliste, qui est que la richesse d'un État, c'est la puissance de ce même État par sa capacité à entretenir une armée et par sa capacité également à négocier des traités diplomatiques. Donc il faut jamais oublier effectivement qu'on est dans un contexte où l'universalisme médiéval a volé en éclats et que les relations intra-européennes sont des relations étatiques très largement conçues sur un mode de rivalité, que ce soit par les armes ou par le commerce.
Et alors qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces richesses ? Il prend l'exemple sur la politique commerciale anglaise, qui est assez prohibitive justement vis-à-vis des produits entrants, Arnaud Rein.
Oui, alors il prend souvent l'exemple de l'Angleterre, où il a résidé, comme on l'a dit, où il nous dit que les marchands étrangers n'ont pas les mêmes droits que les marchands anglais. Et que ça, c'est très important. Hein, que les marchands étrangers ne peuvent pas se déplacer aussi facilement dans les foires, qu'ils doivent payer des licences pour exercer un certain nombre de métiers et de commerces, qu'ils ne peuvent pas vendre et acheter comme ils le souhaitent, et qu'il faut absolument prendre exemple sur la législation anglaise. Et nous dit Monchrétien, en fait, nous avons tous les outils juridiques à notre disposition. Le problème, c'est que les ordonnances ne sont pas appliquées. Et ça, il y revient plusieurs fois, hein, sur le fait qu'il y a des ordonnances qui devraient ne pas permettre aux marchands étrangers de vendre et d'acheter comme ils le souhaitent à l'intérieur du Royaume de France. Et on a également des ordonnances qui nous expliquent qu'il faudrait mettre des droits de douane importants sur les produits étrangers et qu'elles ne sont pas non plus appliquées.
Et donc, pour Monchrétien, on ne doit acheter à l'étranger que ce que l'on ne peut produire chez soi et on doit vendre plus qu'on achète afin d'avoir une balance commerciale positive avec cette idée de projeter la puissance à l'étranger et d'aller chercher des matières premières dans les colonies, Arnaud Rhin.
Oui, ça c'est un de ces grands projets du livre 3 du traité, c'est la Nouvelle-France. Il nous fait une histoire des navigations françaises en Amérique du Nord. Il revient sur les Malouins en particulier, hein, et il nous explique combien l'Amérique pourrait être un second pays de cocagne pour la France.
Sachant que le Québec vient d'être fondé en 1608 par Samuel de Champlain.
Alors, évidemment, il applique une théorie des latitudes, et donc il nous explique qu'est-ce qui pourrait pousser à tel ou tel endroit de la Nouvelle-France. Alors, il ne parle pas seulement que du Canada, il parle aussi beaucoup de la Floride et des Antilles. Donc, il explique qu'est-ce qui pourrait venir sur ce type de terre. Alors, il parle des vignes, des oliviers, des figuiers, des mines, bien entendu, et de l'exportation de la population en trop grand nombre, ou des mauvais pauvres dont je parlais il y a quelques minutes, que l'on pourrait aussi exporter en Nouvelle-France. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Il nous parle de purger le pays des larrons, hein, qu'il faudrait jeter hors du royaume et envoyer en Amérique. L'Amérique, c'est aussi la recherche du passage du Nord-Ouest. C'est-à-dire, est-il possible de gagner la Chine et le Japon par le nord du Canada, le fameux passage du Nord-Ouest qui va être cherché pendant des décennies par les navigateurs? Ça, c'est quelque chose qui importe beaucoup à Monchrétien. Donc l'idée selon laquelle on pourrait à la fois se passer d'un certain nombre de produits importés en plantant quelque part en Amérique du Nord et dans la Caraïbe un certain nombre de produits qu'on importe des pays du sud de l'Europe ou du Levant, et évidemment trouver également des débouchés aux manufactures françaises à l'intérieur de colonies fortement peuplées par des surnuméraires du Royaume de France. Évidemment, j'utilise des guillemets.
Et tout cela doit permettre à la France de devenir, selon Monchrétien, le pays le plus riche d'Europe, puisque finalement, la France possède déjà ses richesses, il suffit qu'elle les protège, Anne Conchon.
Oui, tout à fait. Enfin, le contexte, effectivement, dont on parle, la France est riche de plusieurs choses. Hein. Elle est riche de sa population, on l'a déjà évoqué. Et effectivement, Monchrétien surestime sans doute la purge démographique des guerres de religion, puisqu'il estime effectivement des pertes extrêmement importantes, et il a sans doute exagéré par rapport à d'autres indices. Les pertes démographiques sont sans doute de l'ordre de 750 000 morts ou 800 000 morts, et pas du tout effectivement les proportions qu'il indique. Donc, un des soubassements de la richesse pour Monchrétien, c'est d'abord effectivement un royaume populeux. C'est un royaume riche effectivement de ses productions qui garantissent l'autosuffisance des sujets. Et puis c'est effectivement pouvoir conquérir des espaces et en tout cas disputer la suprématie maritime et coloniale à des nations européennes qui se sont engagées plus précocement, les puissances ibériques, l'Angleterre notamment. Il revient, donc il y a le contexte qu'évoque Arnaud d'exploration coloniale, il rend compte aussi d'initiatives très contemporaines, et notamment j'évoquais tout à l'heure l'amiral l'entourage de la régente, et notamment dans cet entourage, il y a l'amiral de Coligny, et l'amiral de Coligny avait fait armer deux navires de Rouen pour la Floride. Donc, il y a effectivement une politique qui est très largement active en direction soit des Indes orientales, soit des Indes occidentales.
Arnaud Rhin ?
Oui, le contexte est celui de la création des premières grandes compagnies à monopole. C'est l'East India Company, la compagnie anglaise des Indes orientales créée en 1600, et c'est la compagnie des Indes orientales néerlandaises en 1602. Et ça, c'est quelque chose qui impressionne beaucoup les contemporains, et notamment Montchrétien, qui y revient à propos des Néerlandais à plusieurs reprises, en nous expliquant que faire à l'intérieur du royaume de France des grandes compagnies de commerce et non pas laisser le commerce à des négociants individuels qui sont trop faibles pour faire des établissements coloniaux, qui sont trop faibles pour se défendre par rapport à des princes étrangers ou à des puissances étrangères, ça c'est quelque chose qui lui semble porteur d'avenir. Et donc on est aussi dans ce contexte-là.
Et vous l'avez dit, c'est le contexte aussi des États généraux de 1614. C'est à ce moment-là que Antoine de Montchrétien publie son traité. C'est un moment où le royaume est traversé par des questionnements sur la fiscalité et le consentement à l'impôt, Anne Conchon.
Oui, tout à fait. Les États généraux sont un grand moment avec deux dossiers qui sont mis sur la table dès le début des États généraux. Donc il y a effectivement la question de la fiscalité, puisque la vocation première des États généraux, c'est de consentir la perception de l'impôt considéré comme extraordinaire. Et le deuxième gros dossier qui trouve pour le coup un écho direct avec le traité d'Antoine de Montchrétien, c'est la demande de la noblesse de supprimer la paulette, donc une taxe qui est perçue sur les charges publiques. Et ces mêmes députés de la noblesse au tout début des États généraux demandent et la suppression de la paulette et la suppression de la vénalité des charges. Et on retrouve exactement chez Montchrétien ce dossier quand il dénonce justement tous ces parasites dont on parlait tout à l'heure. Donc quand il dit il faut chasser de la ruche les guêpes et les frelons, et parmi les guêpes et les frelons il y a précisément les officiers, puisqu'on a des passages de Montchrétien où il reprend vraiment les discours d'actualité qui sont débattus aux États généraux, c'est-à-dire il fustige la vénalité des offices, et il explique effectivement que il a un jeu de mots qui est assez facile, mais je trouve qu'il est assez intéressant, que les responsabilités politiques dans le bon gouvernement dont il dessine les contours devraient être attribuées à des gens de bien et non pas vendus à des gens de bien au sens très matériel du terme. Donc voilà, il y a un contexte politique qui est très présent en fait en nombre porté derrière le traité de Montchrétien.
Et tout cela au nom à la fois de la morale et de l'efficacité économique. C'est pour cela qu'il a cette vision de la fiscalité, Anne Conchon.
Alors sur la fiscalité, il a des pages mais qui participent, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire plus largement de l'inégalité fondamentale du système fiscal d'Ancien Régime, et effectivement qui fait peser la taille, puisqu'à ce moment-là, effectivement, c'est le seul impôt direct qui existe, qui fait peser la taille sur, justement, les intérêts économiques dont il cherche à valoriser les effets, c'est-à-dire principalement le monde rural, les artisans et les commerçants. Mais plus largement, il y a vraiment une réflexion sur aussi toute une quantité d'argent qui part en fumée, précisément par l'acquisition de ces offices, ces charges publiques, qui se disputent pour certaines à prix d'or et qui sont autant de placements stérilisés, c'est-à-dire qui ne sont pas investis dans la machine économique.
Arnaud Rhin ?
Oui, il a une analyse intéressante du crédit. Il y a deux grands types de crédits qu'il fustige, en fait. D'abord, le crédit des financiers. Mais ça, c'est vraiment être un leitmotiv de l'Ancien Régime. Et puis, le recours trop fréquent de gens qui ont de l'épargne. Alors, soit à l'achat d'office, comme le disait Anne, soit à un recours à des personnages douteux que nous, on qualifierait d'affairistes, qui proposent des taux d'intérêt un petit peu plus élevés que les négociants bien installés, et qui vont produire ce que l'on appelle en macroéconomie l'effet d'éviction. C'est-à-dire, finalement, ces gens-là vont proposer des taux d'intérêt alléchants, donc l'argent, l'épargne des négociants, des honnêtes négociants à la Montchrétien, va partir soit vers des financiers, soit vers des affairistes véreux, et finalement, on va assécher le stock d'épargne pour les négociants, pour les armateurs, pour le commerce au long cours. Et ça, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup Montchrétien.
Montchrétien qui a donc été dramaturge, commerçant, penseur de l'économie. Et à la fin de sa vie, il va devenir un chef de guerre. C'est ainsi qu'il va trouver la mort, Anne Conchon.
Oui, effectivement, Montchrétien, alors on ne sait pas effectivement quelles étaient ses aspirations politique en rédigeant ce mémoire à l'intention de la régente et du roi. Et au demeurant, on l'a pas dit, mais le traité d'économie politique n'aurait pas dû s'appeler comme ça et n'aurait sans doute pas donné lieu à toute cette littérature qui en fait le premier jalon d'une histoire généalogique de l'économie politique. Puisque son ouvrage aurait dû s'appeler effectivement le traité économique du trafic, et on rejoint effectivement des questions commerciales et de valorisation par le commerce de toute une série d'activités du royaume.
Sachant qu'il n'est pas l'inventeur de l'expression économie politique, en effet.
Alors, certains le pensent, mais effectivement, c'est pas effectivement l'économie politique au sens où on l'entend. C'est plutôt un traité, on l'a dit en préambule, de politique économique, c'est-à-dire de bon gouvernement économique.
Mais est-ce que l'expression en tant que telle n'apparaît pas dans des ouvrages précédents ?
Vraisemblablement chez Théodore de Mayerne. Je ne sais plus.
Il n'est pas en tout cas, voilà, c'est le premier à avoir cette expression dans le titre d'un essai, mais effectivement pas dans le sens qu'on lui connaît, et pas dans son sens du XVIIIe siècle. Je vous laisse poursuivre, Anne Conchon.
Oui, et donc pour dire effectivement qu'en 1621, il rejoint effectivement la révolte protestante. Pendant une grande partie de la vie de Montchrétien, une vraie ambivalence, c'est-à-dire effectivement, est-ce que, et Alain Guéry en parle très longuement dans l'introduction du livre que vous avez cité tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que c'est un Montchrétien catholique ou un Montchrétien protestant qui se dessine derrière le traité. Bah, en tout cas, à la fin de sa vie, effectivement, il bascule côté protestant et il est tué près de Falaise. Il a 46 ans, mais effectivement, aux côtés des troupes protestantes.
Falaise, sa ville de naissance.
Voilà. Et au demeurant, quand on regarde les œuvres littéraires de Montchrétien, le jeu des dédicaces est assez intéressant. Et le fait effectivement que ces tragédies qui sont rééditées en 1604 ou 1605, je ne sais plus exactement, elles sont dédicacées au prince de Condé. Donc il y a quand même un milieu protestant qui est assez présent, en tout cas à la fin de la carrière de Montchrétien.
La pensée de Montchrétien qui va inspirer de grandes figures politiques comme Richelieu.
L'opulence des Hollandais, qui à proprement parler ne sont qu'une poignée de gens réduits à un coin de la terre où il n'y a que des eaux et des prairies, est un exemple et une preuve de l'utilité du commerce qui ne reçoit point de contestation. La Hollande fournit presque à toutes les nations de l'Europe ce qui leur est nécessaire. La navigation l'a rendue si célèbre et si puissante par toutes les parties du monde, qu'après s'être rendue maîtresse du commerce des Indes orientales au préjudice des Portugais qui y étaient de longtemps établis, elle ne donne pas peu d'affaires aux Espagnols dans les Indes occidentales où elle occupe la plus grande partie du Brésil. La France est si fertile en blé, si abondante en vin et si remplie de lin et de chanvre pour faire les toiles et les cordages nécessaires à la navigation, que l'Espagne, l'Angleterre et tous nos voisins ont besoin d'y avoir recours. Et pourvu que nous sachions nous bien aider des avantages que la nature nous a procurés, nous tirerons l'argent de ceux qui voudront avoir nos marchandises qui leur sont si nécessaires.
Voilà une lecture extraite du testament politique de Richelieu, écrit peu avant sa mort, en 1642. Les idées de Montchrétien vont être en effet reprises, appliquées par Richelieu, Mazarin et peut-être plus encore Colbert, Arnaud Rhin.
Oui, on a un certain nombre d'auteurs d'abord qui vont reprendre, voire plagier Antoine de Montchrétien. Anne a cité Jean Éon dans le Commerce honorable, où il reprend mot pour mot des passages de Montchrétien. On retrouve chez Georges Fournier également dans son Hydrographie des éléments qui sont très proches de la pensée de Montchrétien. Et on a des hommes politiques qui vont, par leurs idées et leurs actions, en particulier colonial et maritime pour Richelieu, puis sur les manufactures et le commerce et les grandes compagnies de commerce pour Colbert, mettre en œuvre une partie au moins du programme économique dévoilé et développé par Montchrétien.
Oui, notamment, effectivement, Monchrétien prônait l'imitation des Hollandais, vous le disiez, hein, et de leur compagnie des Indes orientales. Effectivement, ce qui est resté, pour autant, c'est davantage le colbertisme que le nom de Monchrétien, qu'on a assez peu retenu, qu'on a beaucoup oublié, Anne Conchon. Alors que Monchrétien a été, je crois, très étudié à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Pourquoi est-ce qu'il est tombé dans l'oubli ?
C'est une grande question à laquelle j'ai absolument pas la réponse. Mais effectivement, quand on regarde effectivement les auteurs qui se sont intéressés à Monchrétien, entre la fin du 19e et le début les années 1920, il y a plusieurs auteurs qui effectivement proposent des lectures, alors qui résonnent très fortement avec des préoccupations pour le coup très contemporaines. On a évoqué tout à l'heure le nationalisme économique. Donc effectivement, on a un travail qui présente Monchrétien comme un nationaliste. Et il faut effectivement attendre la réédition par Biakwa de l'œuvre de Monchrétien, qui est très finement annotée en 1999. Et puis toute une série de travaux plus récents, je pense notamment au travail de Nicolas Panicchi sur Antoine de Monchrétien, donc qui malheureusement est un ouvrage non traduit, qui est en italien, mais qui est vraiment une très belle étude en 1989. Mais le parallèle entre Antoine de Monchrétien et Colbert est un peu faussé, c'est-à-dire que Antoine de Monchrétien n'est pas un homme politique au sein du gouvernement et ayant vocation, peut-être que c'était son rêve caché, ça on pourra difficilement y répondre, mais
il n'était pas comme Sully pour Henri IV.
Voilà, exactement. Donc c'est quelqu'un qui est parfaitement au courant des rapports de force, des enjeux économiques. Il sait pertinemment que Henri IV a impulsé la compagnie des Moluques pour concurrencer les Hollandais, et par ailleurs une compagnie qui agrège des capitaux français et hollandais. Donc il y a aussi, c'est pas simplement de la rivalité, il peut y avoir des alliances très stratégiques pour pénétrer ces nouveaux marchés, mais Monchrétien et Colbert sont deux personnages complètement différents, et dans une biographie intellectuelle, Monchrétien doit être replacé dans son œuvre même, l'historicité de son œuvre, l'éventuel dialogue qu'on peut, ou les liens qu'on peut établir entre son œuvre proprement littéraire, ses affinités poétique avec Malherbe, et puis Colbert qui est avec le décalage chronologique dans
Exactement.
Une toute autre configuration.
Oui, parce qu'il faut rappeler que Antoine de Monchrétien meurt en 1621 et Colbert devient l'intendant en 1661 de Louis XIV, Arnaud Rhin.
Oui, on peut rapprocher Monchrétien presque un siècle plus tard de Pierre de Bois-Guilbert en fait, hein, c'est-à-dire des gens qui vont tenter finalement d'influencer le prince et la politique économique. Bois-Guilbert, on sait qu'il a rencontré des contrôleurs généraux. Il est vraisemblable que Monchrétien a présenté le traité aux gardes des Sceaux en 1516, mais qui finalement ne deviendront jamais, eux, des hommes d'État. Mais pour revenir à votre question sur la vogue de Monchrétien à la fin du 19e siècle, on peut penser finalement à un certain retour d'une politique qu'on pourrait qualifier de mercantiliste à partir des années 1880, 1890 surtout. Et il n'est pas étonnant, finalement, que des gens comme Gustav Schmoller, par exemple, l'école historique allemande, vont s'intéresser à des penseurs du XVIIe siècle qui vont, finalement, je dirais, proposer une politique économique nationale qui est d'un intérêt tout à fait majeur pour des pays nouveaux comme l'Empire allemand, comme le Japon, comme un certain nombre d'autres qui finalement construisent eux-mêmes une économie nationale à ce moment-là.
Eh bien, c'est passionnant et on aura envie d'en savoir encore beaucoup plus, mais le temps a filé et c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Anne Conchon et Arnaud Rhin de nous avoir éclairé ainsi sur ce penseur, cet aventurier qui était Antoine de Monchrétien. Je renvoie les auditeurs à votre article Arnaud Rhin, La vraie nature du mercantilisme contemporain, paru dans la revue Esprit. Quant à vous Anne Conchon, on peut retrouver un de vos articles au sein de l'ouvrage collectif dirigé par Alain Guéry, Monchrétien et Cantillon, le commerce et l'émergence d'une pensée économique, publiée aux éditions de l'ENS. Un grand merci encore à tous les deux. C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Et demain, on reviendra sur l'œuvre de Pascal, Les pensées d'un entrepreneur, avec Anne-Laure Cellier et Laurent Thirouin.